Frères et sœurs bien-aimés, nous reprenons en ce temps ordinaire notre méditation de l'Évangile selon saint Luc. Le premier verset est décisif, c'est un moment charnière dans l'Évangile selon saint Luc. Je vous le relis. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Nous sommes au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Luc. Jésus n'arrivera à Jérusalem qu'au chapitre 19, de telle sorte que saint Luc, en cette lente montée du Seigneur à Jérusalem, nous rapporte un certain nombre de paraboles, d'enseignements, de rencontres que le Seigneur va faire. L'élément décisif est que le visage déterminé du Seigneur manifeste qu'il prend résolument le chemin de Jérusalem, résolument le chemin de la croix. Et il est également très intéressant de constater que dans la connexion des mystères, saint Luc ne nous parle pas de la glorification du Fils de l'homme comme saint Jean, sa mort et sa résurrection. Il annonce déjà la gloire même du Seigneur Jésus, le fait qu'il remonte à la droite de Dieu le Père, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel. C'est également un indice, car toute cette page d'Évangile a en filigrane la vie du prophète Élie. Élie, celui qui a été enlevé au ciel dans son char de feu, Élie, le grand prophète, l'homme au miracle abondant. La problématique de cette page d'Évangile met en scène le refus d'accueillir le Seigneur Jésus dans un village samaritain. Quel est le nœud du problème? Les Samaritains, pourrions-nous dire, sont des cousins germains du peuple juif. Cependant, il y a eu comme une rupture de révélation entre eux, pendant notamment l'exil à Babylone, de telle sorte que les Samaritains se concentrent seulement dans la lecture du Pentateuque, c'est-à-dire des cinq premiers ouvrages de la Bible, et refusent toute l'école rabbinique, mais avec elle, la lecture des prophètes. Ce n'est pas le seul point de litige avec la communauté juive orthodoxe. Dans le Pentateuque, lorsque Dieu annonce qu'il va choisir un lieu où il va falloir l'adorer, il parle tout d'abord du mont Gérizim. Et il se trouve que les Samaritains, eux, ont bâti un temple au Seigneur sur le mont Gérizim. Alors nous comprenons que les pèlerins qui se rendent à Jérusalem ne sont pas bien accueillis, puisqu'il y a une rivalité entre l'Église juive et le temple bâti par Dieu, par Salomon, à Jérusalem, et eux qui tiennent que Dieu sera adoré sur le mont Gérizim. Nous comprenons alors une allusion du Seigneur lorsque celui-ci demande à boire à la Samaritaine, viendra un temps où on ne dira pas que le Seigneur est sur cette montagne ou sur telle autre, viendra un temps où nous prierons en vérité. Eh bien voilà que cette tension est bien manifeste ici. Si les apôtres se permettent, et nous entendons cela avec effroi, de dire au Seigneur, puisque nous n'avons pas été bien accueillis en cette localité, permets-nous de demander à ce que le feu descende. Le Seigneur Jésus les rabroue vivement, mais ils ont de l'instruction, les apôtres. Ils savent que celui qui a véritablement constaté le schisme, c'est le grand prophète Élie. Et l'un des problèmes également des Samaritains, c'est que non seulement ils ont gardé un peu de la révélation juive, mais qu'ils ont également accueilli toutes les idoles, de telle sorte que dans ce fameux temple, il y a à la fois dans le Saint des Saints le compartiment du Dieu unique, et à côté, l'accueil de toutes les idoles, de leur peuple, mais également étrangères. Alors vous comprenez que pour les Juifs, cela est une fin de non-recevoir, et le prophète Élie avait donc manifesté qu'il y avait véritablement un schisme, et lorsque le roi des Samaritains exigeait que le prophète Élie, qu'il estimait comme un grand homme de Dieu, vienne pour lui rendre quelques services divins et honorer notamment Baal, celui-ci refusa catégoriquement de descendre de la montagne sainte, et chaque fois que ce roi envoyait l'armée, le feu descendait, l'armée était décimée. Nous comprenons alors pourquoi les apôtres, qui ont quand même quelques lettres bibliques, disent au Seigneur, faisons tomber le feu comme le prophète Élie. Mais le Seigneur Jésus, vous l'avez entendu, a le visage déterminé. Il prend la route de Jérusalem. Il a annoncé à deux reprises déjà sa mort sur le bois de la croix et combien il allait devoir beaucoup souffrir, mais le troisième jour ressuscité. Nous sommes vraiment dans cette montée de Jérusalem, vers cette montée de la croix, et le Seigneur Jésus n'a eu de cesse de dire que ceux qui veulent aller à sa suite doivent se saisir de la croix. On ne peut pas encore comprendre, en suivant le Seigneur Jésus, ce que veut dire que se saisir de la croix. Nous, nous comprenons, parce que nous avons les méditations de la Passion, où nous voyons avec quel amour le Seigneur a embrasé la croix, embrasé de son amour véritable pour nous. Et les apôtres bien disent, la croix, ça paraît très mystérieux, c'est la condamnation à mort, c'est une mort ignoble, nous dit le livre du Lévitique. Eh bien, nous, nous savons que pour suivre le Seigneur Jésus, nous devons aller à la rencontre de la croix. Mais ce n'est même pas tant que nous devons aller à la rencontre de la croix, c'est que les croix du quotidien ne manquent jamais de se présenter à nous. Qu'est-ce que les croix dans nos existences ? La perte d'enfants, les difficultés, les divisions en nos familles. Qu'est-ce encore que la croix ? La maladie, le scandale de la souffrance. Qu'est-ce encore que ces croix, le veuvage bien difficile lorsque nous avons perdu tel et tel être cher, comment continuer à vivre ? Voyez que toutes ces croix ne manquent pas de se présenter et le Seigneur attend du disciple eh bien, qu'il vive cette épreuve attaché comme lui sur la croix. Puis, en cette page d'évangile, après ce non-accueil dans un village de Samaritains, voilà qu'il y a trois personnes soit qui souhaitent, elles, se mettre à la suite du Seigneur Jésus, soit sont appelées et ne répondent pas avec ce fameux mot « aussitôt » qui caractérise l'appel des apôtres. Saint Marc en est le chantre parfait. Aussitôt, lorsque le Seigneur Jésus a regardé les apôtres, les a appelés, aussitôt ils le suivirent. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. C'est une forme de radicalité évangélique qui est là pour édifier la première communauté chrétienne et dire, lorsque vous recevez l'appel du Seigneur, voilà qu'il faut aller là où le Maître vous envoie. Derrière cet impératif se trouve également, c'est ce qui est manifeste dans cet amour que le prophète Élie avait pour le bon Dieu, on parle même du zèle, cet amour jaloux que le prophète Élie avait pour le Dieu unique, on dit bien, eh bien qu'il faut préférer à l'amour de notre père et de notre mère, à l'amour de notre famille, à l'amour du monde, ce qui est premier, la racine, la source de l'amour, Dieu. C'est également ce que le Seigneur dira à la Samaritaine qui ne comprend pas comment ce Juif peut lui demander à elle, une Samaritaine, à boire. Et le Seigneur, rappelez-vous, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui demanderais de l'eau vive. Seigneur, donne-moi toujours de cette eau-là. Qu'est-ce que l'eau vive ? C'est l'eau qui jaillit à la source. Seul Dieu est la source de notre âme. Lui seul peut venir étancher notre soif d'amour véritable. La première personne qui se présente au Seigneur Jésus décide elle-même, sans que le Seigneur l'y ait appelé, d'aller à la suite du Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras. Et le Seigneur lui rappelle que même les renards ont un terrier. Et le Seigneur Jésus de lui dire, le Fils de l'homme, lui, n'a pas d'endroit où reposer la tête. Car quel est le grand mystère du Seigneur Jésus ? C'est que son humanité, que tous peuvent voir à cette époque, cache la nature divine en lui-même. Dieu est partout. Il n'a pas un lieu où il ne se trouve pas, de telle sorte que le Seigneur Jésus lui répond, comme une fin de non-recevoir, « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, tu ne peux pas me suivre. Là où j'irai, là où je suis, c'est le grand nom que Dieu révèle dans le buisson ardent, je suis cette éternelle présence, tu ne peux pas me suivre là où je vais. » Qu'a dit Saint Luc ? C'est là où le Seigneur Jésus va être enlevé au ciel. Cet homme se dit, ben moi aussi je vais suivre le Seigneur Jésus partout où il ira, même jusqu'au ciel. Et nous comprenons que cette demande de cet homme-là, eh bien nous concerne chacun. Parce que par le sacrement du baptême, non seulement nous suivons le Seigneur dans le mystère de sa mort, nous le suivons dans le mystère de sa résurrection et avec lui, nous serons au ciel. La seconde personne, elle est appelée par le Seigneur Jésus. Suis-moi. Le Seigneur Jésus ne fait pas un grand commentaire de cet appel. Saint Marc nous dit toujours, le regard de Jésus se pose sur eux, il les appelle et aussitôt on le suit. Et là, comme dans le second d'ailleurs, il y a des conditions. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Et la réponse du Seigneur Jésus a de quoi nous décevoir. Laisse donc les morts enterrer leurs morts. Le Seigneur Jésus ne contredit pas le quatrième commandement qui nous invite à honorer notre père et notre mère. Et toujours, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne, nous avons apporté un soin manifeste à ce que tous nos fidèles défunts, quels qu'ils soient, aient une sépulture digne. La fête de la Toussaint est là pour nous faire, pour que ceux qui sont déjà en paradis prient pour nous. Et le lendemain, le jour des morts, c'est le grand jour où l'Église intercède. Il y a trois messes ce jour-là, le jour des morts, comme pour la nativité du Seigneur, où l'Église intercède pour les morts, comme nous le faisons en bien des messes, où nous portons le souvenir ému de nos défunts et où nous en appelons à la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur, ici, s'inscrit dans une histoire qui concerne celui qui est appelé et lui. Permets-moi d'abord d'aller enterrer. Non. Le Seigneur Jésus attend un amour radical de ses apôtres. Il est en train de fonder l'Église. De même, pour celui qui dit « Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Et nous avons entendu dans la première lecture, lorsque le grand prophète Élie a jeté son manteau, c'était l'image de la passation de pouvoir à Élisée, « Permets-moi d'abord, et combien cela est légitime, d'embrasser mon père et ma mère. Ah, tant pis, je n'ai rien fait. » Le bon Dieu appelle, aussitôt, il faut aller à sa suite. Cela a de quoi, eh bien parfois, nous décevoir aussi, parce qu'on se dit, si le Seigneur m'a appelé et que je n'ai pas répondu, que va-t-il advenir de moi? Nous avons, devant cette grande édification des apôtres qui, eux, ont tout quitté, ils ont une grâce pour tout quitter, qui est accordée par le Seigneur. Mais il y a également, dans le livre des Écritures, Jonas. Jonas est cet homme qui est appelé par Dieu. Lui seul doit aller annoncer la conversion de la ville immensément grande, il faut 3 jours pour la traverser à pied, de Ninive. Ah, la grande Ninive où Dieu t'envoie, Jonas. Et Jonas, ne se sentant pas taillé, lui seul, pour aller évangéliser une ville aussi grande, prend la direction opposée. On pourrait dire, Jonas désobéit au Seigneur, le Seigneur va donc le laisser de côté. Non. Lorsque Jonas est dans ce bateau pour s'éloigner de là où la volonté de Dieu l'appelle, eh bien voilà que Dieu va se servir de sa désobéissance, car tout concourt au bien, pour pouvoir évangéliser ceux qui dans ce bateau, parole de marin, ils n'ont jamais vu une telle tempête se lever, qu'ils pointent du doigt, Jonas, c'est que tu as désobéi, quelqu'un a fait quelque chose contre Dieu, car jamais nous n'avons vu une telle tempête. Et la petite voix de Jonas, qui reconnaît que c'est lui, qui n'a pas fait la volonté de Dieu à la 1, à la 2, à la 3, voilà qu'on jette Jonas dans l'eau et que celui-ci ira ensuite, après ce passage mystérieux de 3 jours dans ce monstre marin qui annonce les 3 jours de la mort et de la résurrection du Seigneur, il entre en lui-même, il se rend compte de ce à quoi il est appelé et voilà qu'il va évangéliser Ninive et à peine, dès le premier jour, aura-t-il annoncé la conversion que le jeûne est déclaré dans toute la ville et que Ninive sera convertie. Dieu s'est servi de la désobéissance de Jonas pour convertir ceux qui, dans la barque, ont invoqué depuis lors le Dieu de Jonas. Cela est une éducation précieuse pour nous. Oui, nous avons à répondre aux appels de Dieu, mais Dieu se révèle souvent patient. Eh bien, et il peut également, malgré nos désobéissances, s'en servir pour accomplir le bien. Et je terminerai avec une prière de Saint Michel Garikoïtz, notre saint du sanctuaire de Bétara, qui, un peu comme le prophète Élie et Élisée, avait cette prière essentielle. « Me voici, Seigneur, se présenter au bon Dieu, chaque matin, chaque soir. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, poursuit saint Michel, sans retard. » Et nous comprenons ce que le Seigneur attendait de ceux qu'il avait appelés. « Me voici, Seigneur, sans retard, sans réserve, sans retour. » Par amour. Si le Seigneur Jésus a le visage déterminé, alors qu'il sait qu'il va offrir le sacrifice de sa vie pour le pardon de nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu, pour instaurer l'alliance nouvelle, pour nous faire accéder au ciel, eh bien voilà que le Seigneur accomplit tout cela par amour, sans retard, sans réserve et sans retour. Oui, voilà cette prière que nous pouvons faire monter à Dieu en cette semaine. Me voici, Seigneur, sans retard, sans réserve, sans retour, par amour. Ainsi soit-il.